Bonsoir à toutes et à tous, c'est dimanche, c'est l'heure du Grand Fauve. À l'affiche ce soir, le ski en Italie. Let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
La tomba mania n'est pas un vain mot en Italie et ils seront bien sûr, même en pleine nuit, très nombreux à suivre tout à l'heure le bel Alberto tenter de remporter une 6e médaille olympique et ce, en 4 olympiades différentes, ce qui constituerait un record absolu dans le ski alpin. En 12 ans de carrière et d'innombrables victoires, le campionissimo est ici devenu une sorte de dieu vivant. Même les stars du calcio, le sacro-saint football, n'ont pas sa notoriété. Selon une récente étude, quand Tomba la Bomba est en piste, les Italiens sont en moyenne plus de 8 millions devant leur petit écran.
Combien d'Italiens se passionneront la semaine prochaine pour les championnats du monde de ski alpin organisés chez eux à Cortina d'Ampezzo? Sans doute seront-ils moins nombreux qu'à la grande époque d'Alberto Tomba, mais il ne faut pas tomber dans cette chausse trappe qui tente à réduire le ski transalpin à cette icône des années 90. De Mussolini à Jean-Paul II et de Franco Nonnes à Gustavo Toni, le ski italien est riche d'un siècle d'histoire. Au programme ce soir, donc, deux invités pour tisser les liens qui unissent les pentes enneigées à la société italienne du XXe siècle. Tout d'abord, Alexandre Pasteur, journaliste, il commente entre autres les compétitions de sport d'hiver sur les chaînes du groupe France Télévisions et il sera la semaine prochaine à Cortina d'Ampezzo. À ses côtés, un historien qui a ses habitudes autour de cette table, spécialiste de l'Italie contemporaine et historien du sport, Fabien Archambault, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue. Et puis, juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minonzio. Ce soir, la grande kermesse du Super Bowl. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. À l'affiche ce soir, les skieurs italiens, un autre versant des Alpes.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, ce soir, en levée de rideau, on commence avec une archive de 1968, Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble, où, dans l'épreuve des 30 km à ski de fond, a surgi un homme du Sud, un skieur italien, donc Franco Nonnes, tendu dans l'effort, avec un récit extraordinaire de Claude Darget, vous allez l'entendre, une autre manière d'écrire pour la télévision, vous verrez. La compétition se déroulait à Autran, dans les Alpes françaises.
Autran. Au petit matin de ce mercredi, Autran qui voyait la préparation du 30 km fond, messieurs, une discipline nordique. Les hommes sont prêts, on va partir, on part même toutes les 30 secondes. Il y a près de 80 concurrents. 80 concurrents dont l'effort va se traduire surtout dans le froid du matin par la buée ou la glace qui vont cerner leur visage. Le jour s'est maintenant levé. On est parti. On est parti et on attend à l'arrivée un Finlandais. On attend un Suédois. On attend un Norvégien, voire un Russe. On attend un homme du Nord, en tout cas. Un homme habitué à ce temps, habitué à ces pistes, habitué à cette neige, habitué à cette discipline. Mais, première surprise de ces Jeux, c'est un Italien. Un petit Italien, mais un bel Italien, qui va gagner en large et longue foulée, et que tous, au départ, avait considéré comme parti comme un fou. Franco Nonnes, 27 ans, un douanier comme beaucoup de fondeurs, une famille où ils sont 9 enfants, un ami du champion cycliste Motta et qui pratique lui aussi le cyclisme. Franco Nonnes, tendu dans l'effort, et qui bientôt va doubler 1, 2, 3 concurrents. Franco Nonnes, première médaille d'or des Jeux de Grenoble.
Claude Darget, mon idole. Bien, sur les traces de Franco Nonnes, donc, allons skier de l'autre côté des Alpes. Voici l'histoire du dimanche soir. À la frontière franco-italienne, entre la vallée de la Clarée et le Val de Suse, à 1860 mètres d'altitude, se trouve Montgenèvre, petit village français des Hautes-Alpes. C'est là, en février 1907, que les chasseurs alpins français ont organisé une compétition de ski entre des militaires français et italiens. Ce fut le tout premier concours international de ski alpin. Le début d'une longue histoire qui a façonné des champions sur chaque versant des Alpes depuis un siècle, des skieurs français, autrichiens, suisses, allemands et italiens. Car sachez qu'il existait déjà de grands champions avant le Trust d'Alberto Tomba.
Gustavo Toni habite Trafoi, un village de 200 habitants dans le nord-est de l'Italie, près des frontières de la Suisse et de l'Autriche. Ses parents tiennent un hôtel sur la route du Stelvio, un col que connaissent bien les coureurs du Tour d'Italie. Dans cette région du Haut-Adige ou Sud-Tirol, on parle plus volontiers allemand qu'italien. Gustavo, lui, ne parle pratiquement pas. C'est le plus réservé, le plus calme, le plus secret de tous les champions. S'il est italien de cœur et de nationalité, il ne l'est pas du tout de caractère. Depuis 3 ans, Gustavo Toni est le meilleur skieur alpin et il a remporté 3 fois consécutivement la Coupe du Monde. Il ne s'est jamais vraiment intéressé à la descente, mais il a gagné des dizaines de slaloms et de géants depuis sa première victoire internationale à Val d'Isère en mars 1969. Val d'Isère où Marielle Guachel, Anne-Marie Preux et Jean-Claude Killy lui ont remis récemment le skieur d'or 73 pour ses qualités sportives et morales.
Gustavo Toni, on en reparlera tout à l'heure dans quelques instants. Fabien Archambault, vous êtes historien, spécialiste de l'Italie contemporaine et historien du sport. Pour débuter, Fabien, quelle place occupe le ski dans l'imaginaire italien? Je veux dire, est-ce que les sports d'hiver participent à la fracture qu'on connaît entre le nord et le sud de l'Italie?
Complètement, ça l'a renforcé. Alors si vous êtes un bon bourgeois de Catane en Sicile, vous pouvez aller skier sur les pentes de l'Etna, il y a 2 ou 3 pistes, ou en Calabre, vous pouvez aller sur l'Aspromonte. Mais en gros, ceux qui vont au sport d'hiver, c'est les gens du nord de l'Italie.
Les Piémontais,
les Lombards, et dans les années 70-80, de plus en plus, les Toscans, les Émiliens. Mais ça, c'est le second miracle économique italien.
Donc il y a une sorte d'aristocratie piémontaise des Alpes, en vérité.
La monarchie piémontaise, celle qui a unifié le pays, se considère comme une monarchie alpine. Elle a très mal vécu le fait de devoir rétrocéder la Savoie à la France. Et donc, par exemple, dans l'imaginaire national italien, le Mont Blanc est italien. C'est ce qu'on apprend dans les écoles. Dès le départ, l'unité se fait avec l'idée que ce sont des hommes du Nord qui la font, et les Alpes, pour eux, sont à la fois l'école de la nation et les gardiennes de la patrie. D'accord. Et il reste cette idée que ce qui se passe dans les montagnes, l'armée a à voir avec ça.
On va en reparler de l'armée italienne. Alexandre Pasteur, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Et bienvenue à vous, vous êtes journaliste, vous commentez beaucoup d'épreuves de sport sur les chaînes du groupe France Télévisions, et notamment les sports d'hiver. Vous serez la semaine prochaine à Cortina d'Ampezzo, en Italie, pour les championnats du monde de ski alpin. Alexandre, on connaît l'Italie comme un grand pays de cyclistes, bien sûr, comme un grand pays de footballeurs, mais c'est aussi un grand pays de skieurs. Or, on les connaît moins, Alexandre, ces grands skieurs, à part Alberto Tomba, qui revient incessamment tout le temps. Pour quelle raison, d'après vous, on connaît moins les skieurs italiens ?
On les connaît moins parce que ce sont des gens de la montagne, alors soit de Lombardie, du Piémont ou encore du Sud-Tirol, du Alto Adige, et cette province du nord-est de l'Italie, proche de la frontière autrichienne. Donc voilà, ce sont des taiseux. Gustavo Toni était un taiseux. Vous prenez tous les fondeurs qui ont marqué l'histoire du ski italien, de Maurilio Desolt, Franco Nonnes, dont on a écouté les récits il y a quelques instants. Ce sont des taiseux, ce ne sont pas des garçons très expansifs. Le contre-exemple, c'est Tomba, mais Tomba, lui, est un citadin. C'est un fils de riche de Bologne, rien à voir avec ces gars de la montagne qui ont marqué l'histoire du ski italien.
On va en reparler évidemment tout à l'heure de Alberto Tomba. Fabien, vous l'évoquiez à l'instant, l'affaire militaire. On sait que le ski alpin est entré en France par l'armée, par des chasseurs alpins qui protégeaient la frontière franco-italienne déjà. Est-ce que c'est la même chose en Italie? Est-ce que le ski alpin entre en Italie par la chose militaire?
Totalement. Dès que l'unité italienne est faite, la royauté militarise la ligne de crête.
C'est quelle année l'unité italienne?
Alors c'est en 1800. Alors la fin, définitivement, c'est en 1870, mais dès 1861, vous avez la proclamation du Royaume d'Italie. C'est d'abord les chasseurs alpins italiens qui sont créés, les Alpini, et les Français, en fait, créent les chasseurs alpins pour justement ne pas laisser les Italiens seuls sur la frontière. Après, ce sont les Français qui sont à l'initiative. C'est les militaires français qui inventent les raquettes en 1890, le ski alpin en 1900. Et immédiatement, les Italiens sont là pour se mettre au niveau, techniquement. Il s'agit d'occuper, alors là, non pas symboliquement, en partie symboliquement, les Alpes, mais aussi de quadriller l'espace, c'est-à-dire de pouvoir aller vite dans des endroits, descendre, etc.
Alexandre Pasteur, cette tradition militaire s'est un peu maintenue au cours du XXe siècle. Franco Nonnes était un douanier, par exemple. Tomba était carabinier, me semble-t-il. Est-ce qu'en France, vous connaissez très bien le monde du ski français aussi, est-ce qu'en France, cette relation entre l'armée et le ski s'est maintenue également, Alexandre ?
Oui, absolument. Il y a deux institutions qui sont très importantes dans le ski en France. C'est l'armée et les douanes. Mm-hmm. Il y a plein de skieurs qui sont sous contrat avec l'armée et les douanes. Ça leur permet d'avoir un statut social, d'avoir accès à la sécurité sociale, d'avoir accès à une solde de militaire ou de douanier et de pouvoir pratiquer leur sport de manière tranquille et sereine. Évidemment, il y a encore 20-25 skieurs de l'équipe, des équipes de France de ski et de snowboard qui sont sous contrat avec donc
encore aujourd'hui.
Donc il y a toujours cette relation très très forte, bien sûr.
Ah oui,
bien sûr.
Encore d'accord, aujourd'hui. D'accord. Fabien, en 1922, l'Italie est donc unie depuis une cinquantaine d'années, un peu plus, même 60 ans. Benito Mussolini prend le pouvoir en Italie, on le sait. Et quand on connaît, Fabien, l'obsession des fascistes pour la vitesse, la modernité, la virilité, quel rapport ils entretiennent avec ce nouveau sport, ce sport dit moderne, ce mot qui a beaucoup hanté le XXe siècle, la modernité. Quel rapport les fascistes entretiennent avec le ski alpin ?
Dans cette lutte avec la monarchie piémontaise, une lutte symbolique, savoir qui gouverne l'Italie. Est-ce que c'est le roi, Victor Emmanuel III, ou est-ce que c'est Mussolini ? Comme la famille de Piémont-Sardaigne était très attachée à montrer qu'elle aussi parcourait les Alpes, elle le faisait par l'alpinisme, par la marche, mm-hmm. Le ski, c'est un moyen de moderniser l'alpinisme. C'est d'occuper, de concurrencer la dynastie de Savoie dans les Alpes, mais de manière plus rapide, finalement. Le ski, pour ça, remplit cette fonction de signifier la modernité. C'est aussi un sport bourgeois, aristocratique ou de la grande bourgeoisie. Et ça permet au fascisme de rappeler ce qu'il est. C'est-à-dire que Mussolini est arrivé au pouvoir parce que les élites du pays lui ont donné les clés du pouvoir. Et enfin, c'est un sport qui reste marqué par le militaire, donc de préparation militaire. Et les photos de Mussolini...
Ça existe,
Qui existe.
Montagne.
Alors oui, il était très mauvais skieur, paraît-il. Mm-hmm. Donc on le voit jamais sur les skis, mais...
Il y a des photos un peu truquées quelque part, voilà. Truquées, mais avec des angles où on pense qu'il est skieur, en fait il n'est pas skieur.
Voilà, c'est ça, c'est qu'on se dit, ah oui, il a dû descendre, oui. Etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que...
Mais il posait torse nu, évidemment, comme d'habitude, en pleine montagne.
Alors de face...
De face, c'est un peu en contre-plongée.
En contre-plongée.
Ça, on ne voyait pas trop les skis, mais surtout les bâtons.
Le problème, en fait, de Mussolini, c'est qu'il grossit, plus les années passent, et donc il ne veut pas donner l'image d'un... quelqu'un qui fait de la pancia, comme on dit, qui mettait sous la pancia, comme on dit en Italie. Et donc, il avait tous les jours, c'est lui qui choisissait les photos qu'on allait pouvoir publier. Et en 1937, l'année où est publiée cette photo, on le voit skier.
À la montagne avec des skis.
Il y a 500 photos qu'il a. Et donc, en fait, cette photo, en fait, comme il est de face, on voit moins son ventre.
Ah.
Mais ce qui est intéressant, c'est dans tous les sports, le choix se raréfie. Et à la fin, il n'y a quasiment plus que du ski ou de l'escrime. Pourquoi ? La guerre approche.
Ah oui.
Et donc, le ski est encore un sport militaire.
Fabien, quand on chemine dans l'histoire de l'Italie, assez vite on tombe sur l'Église catholique. Là, je pose la même question, presque en miroir aux fascistes. Quel rapport entretient et l'Église catholique et la papauté avec cette pratique sportive ? Est-ce que c'est pas un chemin pour se rapprocher de Dieu, les cimes et les sommets ?
C'est totalement ça. C'est au même moment. Quel est le chef d'État en Italie ? Il y a le troisième, Laron.
Oui.
C'est Achille Ratti qui devient pape en 1922, sous le nom de Pionze, et qui est lombard, qui était un membre du club alpin italien, qui a fait beaucoup d'alpinisme. Donc lui, la montagne, au départ, c'est l'ascension, le dépassement de soi, aller vers un air plus pur, se rapprocher de Dieu, etc. Et ses successeurs, par exemple Pie XII, traduisent cette attirance vers la montagne dans le cyclisme. C'est-à-dire que leur choix de la modernité, ce sera par le cyclisme. Ensuite, le problème, quand le ski devient populaire, se démocratise dans les années 80, c'est qu'ils n'ont pas de champion, comme Bartali, c'est-à-dire un champion catholique de ski. Donc dans ces cas-là, il faut y aller soi-même. Donc Jean-Paul II se met en scène en skieur. Alors, à noter qu'il est en noir.
Des photos incroyables. Voilà. Hein. Il est tout en noir, en combinaison de ski noir, et pas en blanc, comme on a l'habitude de le voir. Et on voit un Jean-Paul II en haut des sommets, avec des chaussures ski rouges, mais tout en noir, c'est très impressionnant.
Bah, c'est que la toge, ça devait pas être pratique pour descendre. Et en blanc, bah, on aurait risqué de pas le voir.
Oui, bien
et de,
sûr, blanc sur blanc.
Percuter.
Absolument, absolument. Alexandre Pasteur, les compétitions de ski alpin vont prendre leur envol après la Seconde Guerre mondiale. Et là, en Italie, il y a deux grands champions qui vont initier ce mouvement. C'est Carlo Sennonner et Gustavo Toni. Il faut rappeler combien Alexandre Toni est très populaire encore aujourd'hui en Italie. Qu'est-ce qu'il incarne, ce Gustavo Toni, Alexandre ?
Gustavo Toni, déjà, c'est un garçon qui a été le meilleur skieur du monde pendant toute la première partie des années 70, avant l'avènement d'Ingemar Stenmark. Il gagne 4 fois le classement général de la Coupe du Monde. Entre 71 et 75, c'était un excellent géantiste, un excellent slalomeur. Il a été champion olympique de géant à Sapporo, 2 fois vice-champion olympique de slalom. Et puis, c'est un petit gabarit, mais un athlète. Il a été le premier athlète complet dans le monde du ski alpin. C'est un garçon qui, lorsqu'il faisait des tests à l'université de Milan, avait des résultats exceptionnels. Il courait le 400 mètres en moins de 50 secondes. Mm-hmm. Il avait des qualités de bondissement, de franchissement sur les haies. Il aurait fait un athlète merveilleux. Mais voilà, c'est devenu donc le skieur de sa génération. Et puis, il y a un truc marquant avec Gustavo Toni. C'est un garçon qui ne venait pas souvent sur les descentes. C'était un technicien, donc voilà, qui se réservait pour le slalom et le géant. Mais une année, il décide de venir à Kitzbühel, la Mecque de la descente, le temple du ski alpin, la descente la plus difficile, la plus vertigineuse du monde. Et ce jour-là, il réalise un exploit avec ce dossard 24. Il termine à 1/100 de Franz Klammer, la légende autrichienne, le plus grand descendeur de tous les temps. Et ce jour-là, Gustavo Toni est vraiment entré dans le cœur des Italiens avec cet exploit insensé réalisé à Kitzbühel. Et puis par la suite, il est resté très actif dans le monde du ski après sa retraite. Il a été dirigeant à la FISI, la Fédération Internationale de Ski, et il a été le premier entraîneur d'Alberto Tomba pendant 5 ans, pendant donc ces grandes années de 88 à 93-94.
Ces deux champions là qu'on évoquait, notamment Sennonner et Toni, Fabien, ils accompagnent un mouvement de la démocratisation de la pratique du ski en Italie, et ils préfigurent et ils accompagnent ce qu'on a appelé la Settimana Bianca. C'est bien ça, Settimana Bianca. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi?
C'est la semaine de sport d'hiver.
La semaine blanche. Hein.
Voilà, ça veut dire Bianca. Ce qui va nous arriver, ce qui aurait pu nous arriver en France cette
COVID,
année. Voilà. Par rapport à la France, c'est à peu près au même moment, dans les années 70, que ça se démocratise, mais ça le fait moins fort et moins vite qu'en France. Donc c'est resté, et Cortina d'Ampezzo le symbolise, une pratique qui était vraiment réservée à la grande bourgeoisie et à l'aristocratie. Et disons que c'est la bonne bourgeoisie qui, dans les années 70, commence à prendre l'habitude d'aller passer une semaine aussi. Et bonne bourgeoisie du Nord. Et c'est seulement dans les années 80 que les classes moyennes commencent à monter à la montagne.
Alexandre, donc la semaine prochaine auront lieu les championnats du monde de ski alpin à Cortina d'Ampezzo. Donc c'est une vieille station. Les premières épreuves sont en 1932, je crois, de ski alpin à Cortina d'Ampezzo. C'est une vieille dame, cette station de ski. Quelle ambiance y règne aujourd'hui là-bas à Ampezzo, Alexandre ?
À Cortina d'Ampezzo, on est au cœur des Dolomites. Alors déjà, dans un environnement exceptionnel, les Dolomites, c'est ces grandes montagnes de granit là qui deviennent roses. Moi, je trouve ça somptueux. Les Dolomites, vraiment, pour moi, c'est la plus belle partie des Alpes.
Vous avez raison.
Et Cortina, voilà, est nichée donc au cœur de ces cirques granitiques là. Moi, je trouve ça vraiment exceptionnel. Et puis Cortina, c'est une station légendaire qui a pris son essor, vous l'avez dit, avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui est devenue olympique. Cortina a accueilli les Jeux olympiques d'hiver en 1956, et cette édition des Jeux de 56 est mémorable. Parce qu'elle a vu le premier triplé de l'histoire en ski alpin, c'est Toni Zeller qui, 12 ans avant Killy, gagne toutes les épreuves de ski alpin. C'est pour ça que Cortina est aussi entré dans l'histoire du ski en quelque sorte.
Et ils en sont fiers, les Italiens, Alexandre, de cette station.
Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, Cortina reviendra dans le grand bain olympique en 28. Et donc 2028, de retour, donc 2026, pardon, je vais y arriver. Les Jeux donc auront lieu, en tout cas, entre Milan et Cortina d'Ampezzo. C'est une double candidature qui a été retenue par le CIO, et tout le ski alpin aura lieu de nouveau à Cortina. Donc là, Cortina va vraiment être dans l'actu pendant les 4-5 années qui viennent.
Fabien, cette station de Cortina d'Ampezzo, elle représente quoi dans l'imaginaire italien? C'est aussi une station du monde d'hier, où l'aristocratie, on l'a dit, italienne, voulait un peu mimer peut-être les Anglais et les Français. Aujourd'hui, elle a quelle place, cette station, dans la psyché collective italienne?
C'est le chic. Uh-huh. Ce serait l'équivalent de Courchevel chez uh-huh. nous, mais en beaucoup plus mondain. Uh-huh. Alors c'est aussi une stratégie commerciale hein, de promotion de la station, notamment grâce au cinéma. Dès les années 60, donc dans la foulée des Jeux Olympiques de 1956, vous avez La Panthère Rose qui est filmée à San Remo,
à Cortina d'Ampezzo
en 63. Vous avez Frank Sinatra qui vient en 64.
Merveilleux.
Et ensuite la décennie 80, c'est James Bond, Rien que pour vos yeux,
qui est tourné là-bas.
80, c'est à Cortina d'Ampezzo.
D'accord. Je ne sais pas si ce monde a complètement disparu, Fabien, parce que je me souviens d'il y a un an et demi, j'étais dans une station de ski dans le Val d'Aoste et j'étais très surpris parce que j'ai croisé beaucoup de couples italiens plutôt âgés en fourrure, en talons, sur de la glace, on marchait dans la rue. Il n'a pas complètement disparu, ce monde, c'est assez curieux quand même.
La settimana bianca reste une pratique distinctive de la bourgeoisie et il faut singer cette bourgeoisie même quand on n'en fait pas partie. Il y a toute une série de films comiques dans les années 80 où on se moque de ces nouveaux riches qui vont à Cortina ou ailleurs, ou à Sestrière, pour faire comme la haute. Si, en gros, hein, si Cabu avait été italien, oui. ses beaufs oui. auraient été... À Cortina
d'Ampezzo pour la semaine blanche.
Pour la semaine blanche.
Très bien. On va faire une pause musicale avec une jeune chanteuse anglaise que le monde qualifie d'artiste néo-soul à la haute sensibilité. Le titre joué dans le jukebox ce soir sur Inter, Green Eyes.
Des Alpes du Colorado à Aspen, les championnats du monde de ski voient se dérouler les épreuves finales dans un site grandiose.
Philippe Collin.
La neige est poudreuse sur la plus grande partie du parcours et pour gagner, il faut glisser à une vitesse qui, frôlant le maximum, s'accommode mal d'un certain nombre de bosses qui jalonnent le tracé. Et sur les 2000 mètres du parcours, c'est à une vitesse folle que les concurrents franchissent les 35 portes disséminées sur 240 mètres de dénivellation. L'Italien Zeno Collo, déjà détenteur de la plus grande vitesse du monde à ski, enlève le titre de champion du monde.
Sur France Inter.
Zeno Colo, autre pionnier du ski alpin italien. Bambin de Toscane, né en 1920, il fut champion du monde de descente en 1950 et champion olympique dans la même discipline à Oslo en 1952. Zeno Colo skiait sans gants et sans bonnet, le crâne dégarni, le sourire enjôleur, il dévalait la pente avec le toupet d'un gamin inconscient du danger, joyeux et bravache, précurseur d'un autre skieur italien qui, 40 ans plus tard, a dynamité les pistes du monde entier.
Cette saison, Tomba aura été pour tous ses adversaires l'abominable homme des neiges. 95, une cuvée exceptionnelle, 7 slaloms victorieux d'affilée du jamais vu depuis le Groningen-Mars Danemark. Tomba, dans son jardin parsemé de piquets, c'est le gros chat, c'est son surnom, Alberto et ses extravagances. Sa vie de star adulée. Tomba, maestro des pistes, c'est 58 millions d'Italiens, et lui, et lui, et lui.
Moi, je suis un ambassadeur du monde. Si je n'étais pas là, les gens ne viendraient pas aussi nombreux vers le ski. Si Alberto n'était pas là depuis tant d'années, eh bien, il n'y aurait pas de public.
C'est juste, mais non del tutto, c'est...
À chaque course, c'est toute l'Italie qui vibre pour son idole.
Il y a un journal qui a fait le classement de la popularité de tous les sportifs italiens du siècle. Et alors, il a mis première copie, deuxième Tomba et troisième Ferrari, les constructeurs de la voiture.
Dans une Coupe du Monde, parfois bien monotone, c'est sûr, Tomba sort de l'ordinaire. C'est un gros chat sur les pistes, mais c'est aussi un drôle d'oiseau. Son dada, c'est la farce. Tomba, et c'est son fonds de commerce, c'est un amuseur public. Ses fans l'aiment pour ses frasques, ses caprices de star. Et c'est sorti en boîte la veille d'une compétition. Forza, la bomba.
Alberto Tomba. Fabien Archambault, skieur à part, évidemment, Alberto Tomba. Et ce, dès le départ. Alexandre Pasteur l'évoquait tout à l'heure. Il est né en 1966 à Bologne. C'est pas du tout un gamin de la montagne, des Alpes. On est plus près des Apennins, d'ailleurs. Et par ailleurs, donc, c'est un citadin et un bourgeois. Ce n'est pas anodin.
Ben, c'est cette phase des années 70-80 où la bourgeoisie urbaine s'approprie la montagne et commence à faire cette Settimana Bianca. Donc son père était effectivement un petit entrepreneur de San Lazzaro di Sena, qui est à côté de Bologne. Donc c'est vraiment le second miracle économique italien, celui des années 80, qui est fait de cette troisième Italie, l'Italie centrale, avec de la sous-traitance, avec une main-d'œuvre familiale souvent, sous-traitance pour les grosses entreprises et pour le textile, pour les biens d'équipement, mais avec l'industrie a une très haute valeur ajoutée. Et donc c'est cette Italie-là, en fait, en France, on dit c'est les années tapis, les années 80.
Ah oui.
En Italie, c'est les années Craxi, du nom du premier ministre socialiste de l'époque. Donc c'est l'Italie qui s'enrichit très très vite. Et Alberto Tomba, même dans son style, représente ça.
Flamboyant.
Flamboyant.
Oui. Flamboyant, les années fric. Alexandre Pasteur, revenons au sport, évidemment, avec vous. Skieur à part également par son gabarit, Alberto Tomba, 1m82, 90 kg, physique très particulier, un style très technique, très offensif sur la piste. On s'en souvient, Alexandre, il avait un style très explosif, justement, Tomba, la bomba. Est-ce qu'il a inventé, réinventé une manière de skier, Alexandre?
Absolument, absolument. Alberto Tomba, il a imposé son physique, déjà, vous le dites très bien, Philippe, il a un physique exceptionnel, Alberto Tomba. Faut pas caricaturer Tomba, l'homme qui mange des pâtes, qui sort, qui boit du bon vin, etc. Alors, il y a une part de vérité là-dedans, mais Tomba, c'est avant tout un athlète exceptionnel. En squat, on n'a jamais rien vu d'aussi fulgurant. C'est, il a des données de puissance monstrueuses et il a réussi à adapter cette puissance à sa technique de skieur. Et lui, ce qu'il a fait Tomba, c'est que c'est le premier à avoir vraiment réussi à garder le buste dans l'axe et à faire travailler ses jambes de manière pendulaire là sous le buste comme ça pour que ses cuisseaux aillent chercher les piquets comme ça avec un buste toujours figé dans l'axe, c'est-à-dire qu'il faisait le moins de chemin possible, beaucoup moins de chemin que les autres. C'est ce qui lui a permis de se bâtir ce palmarès. Et cette technique, il l'avait en slalom mais aussi en géant, sa deuxième grande discipline, parce que Tomba n'allait pas sur les descentes, sa mère ne voulait pas.
Elle avait la trouille, hein, elle avait le truc que son fils il passe.
Exactement. Elle avait la trouille et le jour où Tomba s'est fracturé la clavicule en super géant à Val d'Isère au début de sa carrière, sa mère lui a dit « Plus jamais tu feras de la vitesse ».
Plus de descente.
Tomba lui a obéi.
Oui, c'est la maman italienne, on obéit la maman italienne, évidemment. Fabien, Alexandre l'a évoqué un tout petit peu, c'est aussi un personnage un peu particulier, Tomba, dans une forme de frasque un peu tout, en permanence. Je me souviens qu'en 88 à Calgary, donc au JO de Calgary, il était tombé amoureux, j'en sais rien, en tout cas il avait une sorte de crush pour Katharina Witt, qui était donc la patineuse est-allemande, et je me souviens qu'il était venu apporter en public un bouquet de fleurs à Katharina Witt, avec un poster dédicacé par lui-même pour elle. d'un certain côté, il a cette panoplie aussi un peu de clichés italiens, un peu arrogant, un peu fiérot, un peu macho. Il véhicule un petit peu ça aussi, Tomba, malgré lui peut-être, mais c'est une réalité quand même.
Oui, alors il y a ce côté mégalomane, hein, dans l'interview que vous avez passé tout à l'heure, il parle de lui à la troisième personne.
Oui, oui.
Donc ce qui, depuis Jules César, c'était assez peu commun en Italie. Et effectivement, il y a les deux aspects, donc à la fois le macho, et très respectueux de sa mère,
oui,
qui veut pas qu'il fasse la descente, de la grand-mère aussi.
Oui, oui.
Donc il y a cette mise en scène d'une famille normale, italienne, et il a son accent et d'Émilie-Romagne, très prononcé, qui fait que, bah, voilà, pour une fois, le ski a une voix en Italie qui n'est pas celle des montagnards.
Bien sûr, qui est moins taciturne, on va dire en tout cas. Alexandre, vous l'évoquiez à l'instant, c'est un immense palmarès. Il y a 5 médailles olympiques, 4 titres de champion du monde. C'est un immense skieur, sans doute un des skieurs les plus doués dans l'histoire du ski. Et il y a 1992, moi je m'en souviens, j'étais encore adolescent, mais il a imprégné ces JO, il a mis son empreinte sur l'ensemble des JO. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça, Alexandre? Il a trusté les JO d'Albertville en réalité, Alberto Tomba.
Bien sûr, et d'ailleurs, effectivement, il parlait de lui à la troisième personne, et il continue d'ailleurs, hein, je le croise encore régulièrement chaque hiver, il continue de parler de lui à la troisième personne, là-dessus rien n'a changé. En 92, effectivement, les Jeux ont lieu à Albertville, et évidemment, Tomba se fend de cette saillie mémorable et dit ce seront les Jeux d'Albertoville.
Et oui,
voilà. et effectivement, il a marqué ces Jeux de son empreinte déjà parce que il remporte le géant. Et ça, il devient le premier skieur à conserver son titre olympique en ski alpin, puisqu'il avait déjà gagné le géant à Calgary 4 ans avant. Et à l'issue du slalom, il réalise une prouesse exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il est 6e ou 7e, je crois, à l'issue de la première manche sur le slalom olympique qui se déroulait au Menuire. Et il réalise une deuxième manche d'anthologie, et il vient échouer à, je crois, 2/10 de la médaille d'or. Et c'est Finn Christian Jager, le Norvégien, qui ce jour-là s'impose. Et mais c'est tombé à la vedette, même s'il ne fait que 2e.
Avec un public en transe.
C'est lui qui est porté en triomphe, bien sûr.
Avec un public en transe. Alexandre, il a aussi révolutionné l'univers du ski, Tomba, parce que avec cet exubérant, ce caractère, il a attiré à lui des sponsors qui n'étaient pas là jusqu'à présent dans l'univers du ski, des pâtes, des bagnoles, etc. Il y a Barilla, il y a Fiat, je crois, c'est Fiat qui est là avec
tout
lui aussi. Il a aussi dynamité les codes, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'argent est arrivé dans le ski avec Tomba.
L'argent est arrivé. Les années 90 sont d'ailleurs une période dorée, hein. Même pour les skieurs français, les skieurs et skieuses français, à l'époque, il y avait de grandes compagnies d'assurance qui étaient partenaires de la Fédération française de ski. Tomba amène un public nouveau, forcément. C'est entre 7 et 8 millions d'Italiens qui le regardent tous les dimanches. Tomba, il remplit les stades en Italie, les stades de foot à l'heure de la messe, les gens viennent
les
regarder
ses
cours sur écran géant. C'est hallucinant, quoi.
Vraiment, ce qu'il a réussi à
faire. C'est le seul skieur à avoir réussi à faire ça. Il y a un phénomène comparable dans le monde du ski, c'est Hermann Mayer qui en Autriche avait la même popularité, la même aura, hein, mais Tomba est vraiment unique, en tout cas dans le monde latin, ça reste exceptionnel.
Et puis ce qu'il a réussi à faire, Alexandre, c'est à embrasser toutes les couches de la société italienne, c'est-à-dire que il est à la fois, Fabien l'évoquait, un homme à la grande parole, un homme qui parle la ville, qui parle pas la montagne, pas la campagne, il n'est pas taciturne et froid comme Franco Nonnes, mais cette dimension a permis d'embrasser toutes les couches de la société. En fait, il était populaire dans toutes les couches, Alberto Tomba.
Exactement, il embarque tout le monde avec lui, Tomba, parce qu'il a un style flamboyant, parce qu'on a envie de le voir gagner. Moi, j'étais fan de Tomba, je le dis, hein, voilà, j'en oublie parfois mon objectivité de journaliste.
Mais c'est bien, c'est bien.
Voilà, avant même que j'aie ma première carte de presse, en 95, j'étais archi fan d'Alberto Tomba, c'est le garçon c'est lui qui me faisait rêver, c'est lui qui me donnait envie de regarder le ski le dimanche matin à la télévision, ça c'est clair.
Absolument. Fabien, l'époque Tomba, c'est aussi les années Berlusconi, c'est la grande époque du Milan AC, grande équipe de football qui a gagné beaucoup de titres, à la fois nationaux et européens, des Ligues des Champions. C'est aussi Marco Pantani, un tour de France, un tour d'Italie, 1998, c'est Alberto Tomba, évidemment, Albertville, Calgary, Lillehammer. Avec le recul aujourd'hui, Fabien, avec votre regard d'historien de l'Italie contemporaine, comment vous analysez ces performances de sportifs italiens aujourd'hui?
C'est le fruit de cette décennie 80, après une décennie 70 qui a été difficile, hein, celle de la crise économique et celle d'une crise sociale, politique, avec le terrorisme d'extrême droite et d'extrême gauche. Les années 80 ont été, on passe à autre chose. Et donc c'est cette nouvelle Italie qui, une fois de plus, renaît de ses cendres. Et c'est évidemment symbolisé par le titre mondial en football en 82. Mais ce que rajoute le Milan AC d'Arrigo Sacchi, de Berlusconi ou d'Arrigo Sacchi, on ne sait plus
trop. C'est qui était l'entraîneur, Arrigo Sacchi. Hein.
C'est le côté flamboyant.
Katomba aussi, d'ailleurs.
Katomba aussi, et est-ce que ça profite fin, c'est plus Tomba que le ski. C'est-à-dire que ce que les Italiens ont apprécié chez Tomba, c'est sa longévité et sa longévité au plus haut niveau. C'est le fait qu'il a gagné des compétitions pendant 10 ans.
Incroyable. Oui.
Et de ce point de vue-là,
50 victoires, je crois, en Coupe du Monde. Oui.
Il ressemble un peu à Valentino Rossi pour la moto. C'est-à-dire qu'une fois que ces champions-là disparaissent, le soufflet retombe sérieusement.
Alexandre Pastore, on vient de l'évoquer, c'est une grande longévité, c'est 10 ans au plus haut niveau, Alberto Tomba, il a polarisé les médias sur son sport, hein. D'ailleurs il a fortement médiatisé le ski alpin, et puis il a pris sa retraite comme tout sportif arrivé à un certain âge.
Justement le jour où Tomba a disputé sa dernière course, j'ai eu la chance d'assister à cet événement, c'était à Crans-Montana, on est en mars 1998, Tomba vient de disputer les Jeux de Nagano de manière très anonyme, il est en surpoids, il est fatigué, enfin il sent que la fin est proche, il ne l'a pas encore annoncé. Et là, on est au final de la Coupe du Monde, les dernières compétitions de l'hiver. Et là, Tomba gagne le slalom de manière complètement imprévue. Il n'a pas gagné une course de l'hiver. Il est vraiment, vraiment, vraiment fatigué. Et il remporte ce slalom devant le tout nouveau champion olympique de slalom, Hans-Peter Bourras. Et là, on le voit, il tombe dans les bras de sa jeune sœur Alessia, qui est aussi son attaché de presse. Il se roule dans la neige longuement. Et on ne le sait pas encore, mais c'est la dernière représentation de Tomba, puisque 4 mois après, il annonce la fin de sa carrière à 32 ans. Et quand j'en parle avec lui encore, il me dit, j'ai arrêté trop tôt. J'aurais dû continuer. J'aurais pu me refaire un physique s'il avait été un peu sérieux. Et il regrette aujourd'hui d'avoir arrêté si tôt. 32 ans, à l'époque, c'était déjà un âge respectable. On voit aujourd'hui que dans le ski, les carrières s'allongent. Donc voilà, il aurait voulu encore étirer le plaisir quelques années de plus.
Et alors, il a fortement médiatisé le ski alpin. Et puis, il a pris sa retraite, Alberto Tomba. Justement, vous l'évoquiez là à l'instant. Il a laissé un grand vide derrière. Le ski alpin a effectivement une crise économique, sans doute, parce qu'Alberto Tomba a porté des sponsors nouveaux. Mais il y a sa personnalité quand même qui polarisait les médias vers le ski alpin. Aujourd'hui, le ski a un petit peu disparu des médias quand même, non Alexandre ?
Bien sûr, bien sûr. Alors le vide qu'il a laissé, il est très sensible en Italie, parce qu'en Italie, alors il y a une équipe féminine qui est très forte et qui d'ailleurs va le prouver, je pense, au championnat du monde de Cortina. Chez les garçons, c'est quand même beaucoup plus difficile. On est retombé dans une sorte de routine, je dirais, au niveau de la Coupe du Monde. Moins de personnages exubérants, moins de personnages flamboyants. Bon, il y a eu Hermann Mayer aussi à l'époque d'Alberto Tomba. Il y a eu Buddy Miller également qui a amené un peu de fantaisie, un côté un peu rock'n'roll également dans le ski dans les années 2000. Mais depuis, c'est vrai que le ski est retombé dans cette routine avec des personnages intéressants, mais qui n'ont pas le charisme, qui n'ont pas l'aura d'Alberto Tomba, très très loin de là. D'ailleurs, le circuit Coupe du Monde en souffre énormément, je trouve. Et on manque de personnalité, mais c'est valable aussi en athlétisme. Il y a plein de sports qui souffrent également de ce manque de personnalité.
Il y a Usain Bolt qui était là, et puis après Usain Bolt, c'est plus la même.
Exactement.
Néanmoins, Alexandre, vous évoquiez l'équipe féminine d'Italie. Quelles sont les chances la semaine prochaine à Cortina d'Ampezzo pour le ski italien?
Alors chez les hommes ou chez les femmes?
Chez les deux, allons-y.
L'état des lieux. Alors chez les femmes, il y a une grande championne en ce moment, c'est Sofia Goggia, qui est bergamasque et qui malheureusement vient de se blesser la semaine dernière alors qu'elle aurait pu viser la médaille d'or en descente et en super géant, voire même en géant. Donc malheureusement, ça c'est une grosse perte pour l'équipe féminine italienne, mais qui aura tout de même ses géantistes comme Marta Bassino ou Federica Brignone et qui a remporté le classement général de la Coupe du Monde l'hiver dernier. Donc il y a quand même ces deux très très belles cartes. Et puis chez les hommes, c'est beaucoup plus dur. Il y a le descendeur Dominique Paris qui est du Haut Adige, lui aussi, comme beaucoup d'ailleurs de skieurs de l'équipe d'Italie, mais qui revient de blessure. Et puis sinon, slalom et en géant, c'est non, les temps sont durs. Les temps sont durs et cette équipe d'Italie, je pense qu'elle risque de connaître une quinzaine difficile à Cortina, malheureusement.
Fabien, j'aimerais qu'on termine avec un autre skieur qu'on a déjà évoqué en début d'émission, un skieur italien ou plutôt italo-polonais, Jean-Paul II, le souverain pontife et sportif, grand sportif. Carole Wojtyla. Et je me disais que peut-être qu'avec ces deux skieurs qui sont Tomba et Jean-Paul II sur des skis, ça résume assez bien les paradoxes de ce pays qu'on aime beaucoup, l'Italie.
Oui, c'est que en fait, ils sont probablement croisés sur les pistes.
Et oui, c'est pour ça que j'y pensais. Que Jean-Paul II a peut-être croisé Tomba sur les pistes.
Voilà, c'est ça. Et donc, ils ne se sont pas percutés. qui aurait eu le plus mal entre les deux? Oui, c'est tout le charme de l'Italie. C'est que... À chaque coin de rue, une surprise vous attend.
Et oui.
Stendhal le racontait déjà.
Et oui. Jean-Paul II, Alberto Tomba. En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir. Vous pouvez retrouver Alexandre Pasteur sur les antennes de France Télévisions et notamment tout au long de la saison des sports d'hiver, mais aussi le cyclisme. Il commente le vélo de manière magistrale, Alexandre Pasteur. Et n'hésitez pas à vous plonger dans les travaux scientifiques universitaires de Fabien Archambault, des écrits passionnants. Merci à vous deux. Bonne soirée. À plus tard. Salut.
Non, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on ait rien su faire, on n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'égo et quelques langues à défaire pour les revoir se plaire. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est mer. Voir si la lune est claire de quelques têtes hors de l'eau. Un monde où tout se perd. Demain c'est juste hier.
Nous, chanson signée Julien Doré. On poursuit en musique avec La Victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Minanzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Ce soir, la kermesse du Super Bowl. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous.
Alors, de quoi on cause ce soir ?
De la finale de la Ligue américaine de football américain, c'est-à-dire le Super Bowl, dont la 55e édition aura lieu cette nuit. La rencontre opposera les Chiefs de Kansas City aux Buccaneers de Tampa Bay. Et comme chaque année ou presque, le pic d'audience de cet événement devrait être atteint aux États-Unis lors du Halftime Show, le spectacle musical qui se déroule à la mi-temps du Super Bowl.
Alors à quand remonte cette tradition des Halftime Show ?
Le premier d'entre eux s'est tout simplement tenu à la mi-temps du premier Super Bowl en 1967. Au début, ces animations se résumaient à des concerts de fanfares locales qui se déplaçaient en rythme sur le terrain, accompagnés de majorettes. Puis, peu à peu, des chanteurs de variété se sont invités dans la programmation, tels Andy Williams, qui, en 1973, a entonné son ode au petit déjeuner, Marmalade, Molasses and Honey, malgré une sono un petit peu défaillante.
L'ode au petit déjeuner d'Andy Williams. À partir de quand ces spectacles, Pierre-Étienne, ont pris une tournure, disons, plus moderne ?
À partir de 1993. Mm-hmm. Cette année-là, c'est la plus grande star du moment qui officie au Halftime Show, Michael Jackson. Lorsqu'il apparaît sur la scène installée sur la pelouse, le King of Pop reste immobile pendant plus d'une minute trente.
On s'en souvient.
Il s'opère alors un basculement, car tous les spectateurs présents en tribune, ainsi que tous les spectateurs du monde entier, ne peuvent quitter des yeux cette icône immobile. C'est à ce moment précis que la mi-temps du Super Bowl devient presque aussi importante que le match lui-même. Dans la foulée, Jackson interprète plusieurs de ses tubes, dont « Black or White ».
On entend qu'à l'époque, la sonorisation du concert était encore imparfaite. Hein.
Oui, à ce sujet, on a l'impression que, depuis 25 ans, les artistes qui s'invitent à la mi-temps du Super Bowl hésitent entre deux tendances. Il y a d'un côté ceux qui souhaitent rendre leur show toujours plus spectaculaire, quitte à user du playback. C'était le cas, par exemple, de Katy Perry en 2015. Alors, pour sa défense, c'est quand même difficile de chanter juste quand on chevauche un lion géant à facettes au milieu d'un stade. Oui. Et puis, il y a les artistes qui refusent le playback, dans l'espoir de créer un lien plus direct avec le public. C'est ce qu'ont tenté de faire en 2011 les Black Eyed Peas, avec plus ou moins de réussite. Jump out that sofa, let's get up. We will have a ball, get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, spaced out, losing our control. Chit, 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 fill up my cup. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est un peu raté, mais rassurez-nous, il y a quand même des spectacles réussis sans playback au Super Bowl. Bien sûr. On pourrait citer les performances marquantes de U2 en 2002 ou de Bruce Springsteen en 2009. Ma préférence va vers le show réalisé par Prince en 2007.
Ah oui.
Seul avec sa guitare, sous Magnifique. Une pluie diluvienne, il avait notamment proposé une version déchirante de son hit « Purple Rain ». I never meant to cause you, you've been inside the world. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah. In the purple rain, purple rain, purple rain.
Ah, il nous manque Prince. C'était impressionnant, en effet, ce show de Prince à la mi-temps du halftime du Super Bowl. Est-ce qu'on sait déjà quel artiste va s'illustrer cette nuit, Pierre-Étienne ?
Oui, ce sera le chanteur superstar canadien The Weeknd. Vous pourrez donc l'entendre à la mi-temps du Super Bowl, qui sera retransmis en France à partir de 00h30 sur Beansport ou en gratuit sur la chaîne L'Équipe.
Le rendez-vous est pris. À la semaine prochaine, Pierre-Étienne.
À la semaine prochaine.
Salut. Et voilà, cette 22e émission de notre saison 6 a été mise en ondes ce soir par H2M, bien sûr, Henri Marc Mutel. Merci Marco. Assisté ce soir à la technique de Florent Layani. Merci à lui, merci à toute l'équipe de l'Œil du Tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. Merci à Thierry Dupin pour la programmation des Scuds. Merci à Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Twitter avec le compte L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr, bien sûr, pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec Thierry Frémaux, mémoire d'un judo boy. Le délégué général du Festival de Cannes est aussi ceinture noire sur tatami. Et oui, rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.